Les controverses du village, épisode 15, troisième partie, spéciale trop de filles à table.
Trop de filles, non, non.
Avec Émilie Flamand.
Bonsoir.
Karine Wittmann.
Bonjour.
Si vous l'écoutez tard ou tôt, on sera dedans, en plein. Delphine Rivet, qui va prendre sa respiration avant de parler.
Non, je préfère rester dans l'anonymat, merci.
Voilà, c'était donc Delphine Rivet. Et quelqu'un que nous n'avons jamais eu sur le podcast, Julien Lagré.
Salut.
Voilà, le mouvement de main, c'est pas la peine.
Si, c'est pour le principe.
Alors aujourd'hui, les événements de la Comic-Con, c'était Teen Wolf, encore un petit bout du Visiteur du Futur,
ouais.
Les super-héros français, la conférence, et évidemment les 30 minutes inédites, tellement inédites qu'elles n'étaient pas vraiment finies.
Et que c'était pas les 30 premières.
C'était pas les 30 premières, si vous comprenez, vous nous dites, hein, vous nous envoyez des mails, de Labyrinthe. Une mini-série pour la BBC.
Non
pour Channel 4 de 4 fois 52 minutes, c'est ça?
3 fois 60.
3 fois 60? C'est pas un 4 fois?
Je rappelle, on est entre pro des séries.
Ah putain! Ouais, on est super préparé.
Ça fait trop plaisir. 2 fois 90 minutes pour M6.
Ouais, non, mais là, tu m'as perdu. Là.
M6 est coproducteur.
Pour TMC, 72 fois 4 minutes.
C'est un programme court.
C'est une short. Et on va se marrer. Hein. Putain, ça, on va se bidonner. Quoi.
Donc, tu dis avec qui c'était au moins?
Avec Katie McGrath et...
Emmanuel Elliott de Prometheus.
Ouais.
Voilà.
Je me souviens pas dans Prometheus, d'ailleurs. C'est marrant, ça m'a pas frappé.
Il m'a pas marqué.
Je crois qu'il est sur Terre.
Il y a Malfoy de...
Voilà.
D'Harry Potter, dont je me souviens plus le nom. Le petit blond qui a bien grandi.
Qui est plus blond.
Qui est plus blond.
Jessica Brown Finlay de Downton Abbey. John Hurt de Merlin.
John Hurt, que tu vois très peu dans les 30 minutes.
Attention, car il va faire un malaise en disant son nom.
Ah, Sebastian Stan, j'adore, qu'on a tous vu dans Gossip Girl, non?
Non, moi j'ai...
Le visage de Karine vient de s'illuminer, c'est magnifique.
Celui qui jouait le...
Captain America.
D'accord.
Et quoi d'autre? Je sais plus. Bon, il joue dans... Ah oui, il va jouer dans Political Animal qui arrive sur USA le 15.
D'accord. Et c'est sur... à la base, c'est un livre de Kate Moss,
ouais,
qui est quasiment aussi maigre que le mannequin. Il faut le souligner.
Elle est absolument squelettique. Blonde, squelettique, plus petite.
Alors, il fait 600 pages.
Le livre?
Pour 600 ou 700 pages, bon, c'est un gros pavé. De suite, une qui sort en septembre, la troisième qui sort en septembre, qui s'appelle Citadel, et qui conclut la trilogie, en fait.
D'accord, c'est une trilogie à la base.
Et le deuxième, je ne sais pas combien de pages il fait. Donc à la conférence, ils ont dit que leur but est évidemment
d'adapter tout,
d'adapter les deux autres derrière. Ils espèrent que les audiences seront là pour adapter et c'est prévu comme ça.
Et donc c'est 30 minutes.
Voilà, moi j'ai été très déçu sur un point, c'est en fait donc le réalisateur a choisi de montrer les 30 dernières minutes du premier épisode pour montrer le climax et plus d'action. Et du coup, ça n'a aucun intérêt. On rentre pas du tout dans l'histoire, jamais. On est tout le temps perdu. Et du coup, pour la dernière scène, on se fade 25 minutes de choses intéressantes qui auraient nécessité une exposition.
C'est
intriguant, ça donne envie de voir,
le début.
Mais du coup, je trouve que choisir les 30 dernières minutes, je trouve pas ça judicieux.
Clairement, il faut quand même justifier l'idée que c'est un réel qui a choisi.
Oui.
Et que dans les 30 dernières minutes, en fait, tu as...
Une scène de bataille.
Assez
met en valeur la réalité.
Voilà. Assez, voilà, assez costaud,
c'est
pas
très
mal
très
foutu.
Ah oui, oui.
Forcément, pour lui, c'était plus visuel.
Faudrait demander à quelqu'un.
Au niveau de la réalisation, c'est très joli à
regarder. Ah non, c'est très bien. Non, mais ça donne envie, franchement, ça donne envie de voir.
Les acteurs sont bons.
Après, c'était sûrement le but. Hein. Enfin, toute façon, c'est le but. Ouais. Après, on peut.
Mais en fait, c'est un peu la même chose que série qui propose le cinquième épisode d'Inquisitio.
Oui.
Alors, ça, j'en ai discuté hier avec le réalisateur.
Avec Huch. Ouais, avec Huch. Et en fait, ça justifiait par le fait qu'il ne voulait pas mettre le 1 et le 2 parce que le 1 et le 2 avaient déjà été diffusés.
Oui, mais à ce moment-là, il faut faire le 3.
Il ne voulait pas mettre le 3 et le 4 parce qu'en fait, le 3 et 4, en fait, les intrigues du 1 et 2 sont semi-closes dans le 3 et le 4. Et il trouvait que le 5e, c'était un peu celui qui était. Qui permettait d'avoir pas trop d'informations.
Les 30 minutes n'étaient pas finies d'être mixées, en fait. C'était à 95% fini.
Oui, ça s'entend pas.
Ça s'entend, ça s'entend.
Poil.
Ouais, ça s'entend pas mal. Quand même. T'as des dialogues qui manquent, t'as des effets qui sont un peu trop forts.
Ah non, oui, effectivement, les dialogues qui manquent. Oui,
mais c'est juste sonore. Au niveau visuel, non, ça se voit. Oui. Enfin, ça se voit pas, ça s'entend un peu, mais ça se voit pas. Et justement, c'était la première fois que vous voyez donc ces images-là, les comédiens en fait.
Oui, tout
il y a que
fait.
Le réalisateur qui avait vu.
Même Kate Moss, l'auteur, les avait pas vus.
Kate Moss les avait pas vus.
Et leur réaction, super ouais. Excité. Ils étaient emballés par ce qu'ils voyaient à l'écran.
Bon.
Vraiment. Et tu voyais qu'ils étaient vraiment contents de ce qu'ils venaient de voir à l'écran. Ça les impressionnait de se revoir et voilà quoi. Donc c'est intéressant.
Il y a eu des informations pour la suite. Ils ont lâché des trucs ou...
Non, tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que le montage n'est même pas terminé, que ça sera prêt pour septembre pour M6.
D'accord.
Donc ça veut dire doublage.
Non mais attends, j'espère dans ces cas-là que les 30 minutes qu'on a vues vont effectivement être ces 30 minutes-là. Parce oui. que...
Non, ils couperont pas. Enfin, logiquement, ils devraient pas couper. Enfin, sauf si M6 décide de couper, ça c'est leur droit le plus strict. C'est leur droit, je sais pas, parce que les contrats sont. Oui, ils commencent à être. Ils ont peut-être pas le droit. En tout cas, pour Channel 4, ça sera dans cette version-là. Kate Moss a parlé d'une scène qu'elle a vue quand elle est venue sur le tournage, où elle voyait donc les deux sœurs, c'est-à-dire Cathy McGrath, qui joue la méchante, évidemment. Et
Floriane et Anaïs.
Et Anaïs, la gentille, qui est jouée par Jessica Brown Finlay, je sais pas. La gentille fille de Downton Abbey, la politicarde. Et elle disait qu'elle a été touchée par ce qu'elle voyait à l'écran. Et elle a demandé sur scène au réalisateur si ça faisait partie de la série. Parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va. Voilà. Et donc le réalisateur lui dit ouais, t'inquiète pas, cette scène qui montre bien les deux opposés ce sera bien à l'écran, etc. Et à part ça, ils ont parlé d'autres choses, le rapport au fait de jouer en costume, parce que Moon Elliott et elle travaillent beaucoup en costume. Pourquoi est-ce que c'est pas trop redondant de toujours être dans des séries en costume? Et Elliot a expliqué que c'est pas parce que c'est en costume que c'est toujours la même période. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que il apprend plein de trucs à chaque fois. Donc voilà. Et à part ça, rien de spécial.
Donc plutôt emballant, une conférence plutôt très intéressante.
Ah oui, vraiment.
Une petite incompréhension sur les 30 dernières minutes plutôt que les 30 premières. Maintenant, c'est vrai, en même temps, c'est devant le grand public, donc pourquoi pas mettre. C'est un point de vue de réel. Maintenant, en effet, ça donne envie de voir le reste.
Et il y avait quand même une grosse partie du public qui était là pour Cathy McGrath, pour Merlin.
Tout à fait.
Donc ça fait venir des gens, et bon, ils seront peut-être là pour M6 quand ça arrivera sur.
Non, mais bon événement, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. On va parler de Teen Wolf.
Ouais. on est trois à pouvoir parler de Teen Wolf, même beaucoup, oui. Là.
Non.
Non.
Très peu.
Ah, bon, d'accord.
Moi, non, pas du tout. Même pas une seconde. Je vous laisse la parole.
Ah bon, d'accord.
Vas-y,
je vois la vague, là.
On a eu donc Tyler Hoechlin en interview. Bon, je vous cache pas que c'était sympa, quoi.
On va peut-être rappeler juste qui est-ce qui joue avant de partir sur.
C'est Derek.
Ce beau rencard.
Voilà, c'est celui qui joue Derek dans Teen Wolf.
Qui avant avait eu la grande chance de jouer dans 7 à la maison dans les dernières saisons.
Ouais. Mais pour ceux qui ont vu le film Les Sentiers de la Perdition, par exemple, ouais. C'est le fils de Tom Hanks dedans. Donc il y avait quand même un super casting. Il y avait Paul Newman aussi. Donc voilà.
C'est un bon film.
Et c'était un bon film et il jouait très bien dedans d'ailleurs.
Mais s'il joue très bien dans Teen
Wolf. Il a bien grandi. Écoute, il joue bien son rôle. Moi, j'ai rien à lui reprocher, quoi.
Vous pouvez nous reciter Teen Wolf ? De quoi ça parle ?
Teen Wolf, c'est l'histoire d'un jeune adolescent qui, en fait, est dans un lycée tout à fait normal aux États-Unis. Et puis, un jour, il lui arrive l'incroyable expérience de se faire mordre par un loup-garou. Et donc, il devient loup-garou. Et là, donc, tout à fait basique hein, pour une histoire de loup-garou jusque-là. Mais dans Teen Wolf, il y a une vraie mythologie derrière. C'est-à-dire qu'on se rend compte, donc c'est Teen Wolf, en plus il y a du Roméo et Juliette, parce qu'on se rend compte que les chasseurs dans Teen Wolf, c'est la famille Silver, et c'est comme par hasard la famille de la fille dont il est amoureux. En plus de ça, il y a...
Ouais. Il s'appelle
Argent. Là, la famille
Argent.
Argent, voilà, oui, mais voilà.
Pour l'argent. Parce que
l'argent,
c'est ça.
Le métal. Ouais.
Exactement, c'est celui qui tue les loups-garous. Donc, bref, c'est la famille donc, de la jeune fille dont il est crack-love. Et oui, les je remets au goût des expressions qui c'est n'existent pas.
C'est la première fois qu'on utilise crack-love dans un podcast du village.
Ça méritait d'être dit. Donc, voilà, il y a aussi le fait qu'en temps normal, les loups-garous n'apparaissent qu'à la pleine lune, mais en fait, là, ils apparaissent tout le temps. En fait, plutôt quand ils sont énervés.
Sous l'impulsion.
C'est ce que j'ai cru comprendre du coup.
Ou une impulsion sexuelle.
Ce qui fait qu'ils peuvent aussi apprendre à le gérer du coup.
C'est ça, exactement.
C'est donc une série cérébrale.
C'est très très cérébral.
Si tu veux, sur les bonus du DVD de la saison 1, ils ont eu, parce qu'ils sont très second degré, ils ont fait un documentaire sur les scènes à moitié à poil des mecs dans la série.
Oui, il y a beaucoup de shirtless. Hein,
beaucoup.
Ce qui n'est pas pour nous les plaire.
Beaucoup. Voilà.
Franchement.
Ce qui vous a posé une question passionnante sur quelles étaient les conséquences justement d'être shirtless.
Je pense que vous vendez super bien cette série à un certain type de population. Mais pas à tout le monde.
Très sérieusement, c'est une série qui revisite quand même beaucoup la mythologie des loups-garous. Et ça, c'est important de le dire. Parce que, ils travaillent dessus. C'est-à-dire qu'ils utilisent les piliers de la mythologie du loup-garou et ils se l'approprient et la développent de manière différente. Donc, on n'est plus que dans la pleine lune, on est dans l'énervement, on est dans des familles qui héritent de la mission du chasseur. On est
dans les clans aussi.
Dans les clans, les clans de loup-garou qui s'affrontent. Il y a aussi beaucoup sur le parallèle entre apprendre à se contrôler. Oui, c'est ça.
Oui, parce qu'il y a de la hiérarchie au sein même des loups-garous. T'as ceux qui se regroupent en meutes
de loups.
Il y a un alpha, bêta, alpha male. T'en as qui sont solitaires, t'en as qui sont bons.
Exactement.
Il y a des enjeux de pouvoir aussi. Il y a des... Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une série donc fantastique. Elle peut être pour ados, voilà. Elle peut être assez sombre. Hein, elle peut être voilà. Mais il y a un personnage qui est la caution comique quand même.
Le pote du...
Voilà, qui s'appelle Styles, qui est un peu le sidekick du jeune
loup-garou.
C'est
l'équivalent du Xander dans Buffy, quoi.
Il est très drôle. Je trouve... Les filles sont pas trop mal, parce que moi, je m'attendais aussi à avoir des potiches autour. Et mecs,
c'est vraiment des femmes très, très fortes.
Voilà, la petite amie du
Shortless aussi.
Du Teen Wolf.
Mais très courte.
Très courte.
Mais ce sont pas... Même si on peut croire qu'elles sont sans défense et machin, en réalité, non. Il y a une qu'on croit que c'est une bimbo totale, alors qu'en réalité, on s'aperçoit qu'elle est super jolie, mais elle a un
QI 280.
Ouais, voilà.
C'est
un
QI énorme. En fait, c'est l'équivalent de Chris Hemsworth dans Cabin in the Woods.
C'est pas si mal foutu.
Et alors, en tout cas,
ils évitent à peu près les clichés. Quoi.
Ouais. Et la saison 2 est vraiment... Tu vois vraiment qu'il y a un décalage dans la qualité. La saison 1, elle est addictive, dans le sens où c'est très fun de la regarder. C'est vraiment, là pour le coup, un plaisir coupable que tu regardes un vrai divertissement. Et la saison 2, à la fois, ils gardent le côté très humoristique avec Styles, évidemment, mais ils ont vraiment... Il y a une qualité... scénaristique et visuel ils ont vraiment explosé.
Et puis, n'oublions pas aussi de préciser que c'est une série quand même sur la thématique de l'adolescence. Et ce qui est très intéressant dans cette série-là, c'est qu'il y a énormément de place pour les adultes dans une série sur l'adolescence. Parce que c'est à la fois, on suit un groupe de teenagers, mais ensuite, ils doivent apprendre à se contrôler et ils font appel à des figures adultes pour faire ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit pas si souvent que ça dans les séries pour ados. Et voilà, c'est quand même assez nouveau et je trouve ça bien. Puis ça se passe bien apparemment et a priori il nous a dit
qu'il ne peut pas utiliser le buffet pendant
c'est ça,
le tournage.
Exactement, parce qu'ils sont torse nus, donc ils doivent entretenir leur musculature.
Cette question de fond que tu as posée.
l'année dernière on avait Merlin.
Voilà. Non mais ce que je faisais comme réflexion, est-ce que vous avez pris du muscle?
Il en fallait une cette année.
Non mais je trouvais que c'était important de. C'est quand même une série qui est où ils sont énormément torse nus. Non mais vraiment, et puis ils jouent sur les clichés, ils vont dans les vestiaires, enfin ils jouent vraiment sur ce cliché-là, donc c'est vrai que ça aurait été dommage de passer à côté de cette question.
C'est un peu comme...
Petite dédascalie, vous ne pouvez pas voir, mais il y a quand même quelques paires d'yeux qui brillent pendant ce débat là sur la particulièrement le sujet des torse nus.
Et ce qu'il nous expliquait, c'est qu'à tour de rôle, vu qu'ils sont plusieurs à être torse nus dans la série, en fait, quand ils reçoivent le script, ils regardent qui va être torse nu et ils se moquent de la personne en disant « Haha, tu vas pas pouvoir manger la semaine prochaine !» Voilà. C'était une question très très intéressante, mais je pense qu'il faut parfois alterner les questions.
Je trouve que c'est intéressant de noter aussi que la saison 1, il n'y avait pas de générique, et la saison 2 s'est dotée d'un générique qui est plutôt pas mal d'ailleurs.
Qui est vraiment bien.
Hein, qui est assez chouette visuellement, il y a un travail un petit peu... Moi, il m'a rappelé un petit peu le clip qui servait à promouvoir Millennium, avec l'espèce d'encre noire... Il y a un côté comme ça un peu techno derrière, enfin je sais pas. Mais franchement, le clip est très bien.
C'est une série qui mérite, enfin qui est beaucoup moins pire que ce à quoi on pense quand on la regarde. On s'attend vraiment à des trucs en se disant que ça va être une série pour ados horrible avec tous les clichés.
Fox, voilà. Wolf, c'est pas ça du tout.
Ou même que tu penses au loup-garou du campus, on n'en est pas là. Donc. C'est vrai. Donc non, c'est vraiment autre chose.
C'est une série qui a réussi à apporter plus. Que son casting.
Et que son
casting. Parce que c'est vrai que voilà, ouais, t'as des castings qui sont sympas et les nanas restent.
Je sais pas si vous la regardez ou pas, parce qu'on a vachement préparé l'émission. mais en parallèle, il y avait Vampire Diaries aussi.
C'est ce qu'on entend en bruit de fond, en fait.
C'est ce qu'on entend en bruit de fond. Y en a qui suivent ou pas aussi,
Oui, c'est génial.
Oui, je regarde Vampire Diaries aussi. Ouais.
Donc c'est un peu le même principe, en fait. Ça a l'air d'être un peu con d'extérieur. En fait, c'est plus intéressant que ça, quoi.
Guilty pleasure quand même, non, Vampire Diaries.
J'ai plus de mal.
Ça devient de plus en plus noir en plus.
Non,
je dis juste que c'est de plus en plus noir. Je ne fais jamais de spoiler.
C'est très sincèrement, de Vampire Diaries, c'est ce qu'il y a à l'heure actuelle de mieux écrit
en matière de vampire.
Bon, ça, c'est pas difficile.
C'est pas compliqué.
Il
y a une sacrée concurrence qui est vraiment.
C'est vraiment très très bien écrit. Les arcs, les histoires sont très très bien gérées. Ils ont appris à gérer ce rythme-là. Bien évidemment, en fin de saison, ils sont sur les rotules, ouais. Mais c'est fantastique ce qu'ils font sur 6 ou 7 épisodes. Ils rechangent les arcs et voilà. Il faut savoir qu'ils sont à 7 actes par épisode.
Et puis ce que j'avais entendu, c'est que c'était une série qui brûlait ses histoires, en fait. C'est-à-dire des arches qui font une saison pour une
ça
série
marche.
Normale, ils font ça sur 6 épisodes. Quoi.
Moi, c'est un truc que j'avais pas, justement, que j'arrivais pas à
réaliser.
Non, apprécier. C'est-à-dire que pour moi, ça va trop vite. Ils brûlaient leurs cartouches trop vite et tu te retrouvais, du coup, alors tu avais des histoires qui démarraient plus tard.
Oui, mais si tu regardes.
T'avais l'impression que
si
tu s'en débarrassais.
Si tu regardes les séries feuilletonnantes, ils ont des arcs avec des guests qui ne dépassent pas les 13 épisodes.
Ouais.
Donc c'est pas si étonnant que ça, sauf qu'au lieu de faire une mi-saison, ils vont peut-être descendre à 6 ou 7 épisodes. Et c'est pas plus mal. Et ça marche mieux, c'est mieux écrit.
Vampire Diaries, moi, pour l'avoir suivi un petit peu, bon, plus ces derniers temps, mais bon, je l'avais suivi un petit peu pour le site, mais moi, c'est ça qui m'avait dérangé. Et le casting, au bout d'un moment, j'en peux plus, quoi.
Moi, je trouve que déjà, ils s'améliorent énormément au fur et à mesure des années. Ils arrivent à retourner des trucs. Ceux qu'on aimait au début, on les déteste maintenant et inversement. Donc, il y a des choses très intéressantes là-dessus. Une belle évolution du personnage féminin principal qui, moi, me donnait envie de lui foutre des sacrées tartes dans la figure début. Et maintenant, j'arrive presque à l'apprécier. Donc, on a vraiment une belle évolution. Voilà. Alors, moi, j'ai toujours été fan des bestioles, des sorcières, des monstres, et ainsi de suite. Et là encore, ils explorent la mythologie sans se disperser. Et c'est quelque chose de vraiment intéressant pour ça.
D'accord.
Et c'est effectivement beaucoup mieux écrit que True Blood.
Ce que j'allais dire, quand on entend ça, on se dit c'est l'anti-True Blood. C'est le même principe et en même temps.
Mais True Blood se disperse.
Ouais, enfin, à la base, True Blood, c'est censé être de décomplexer les fans et ça ne réussit pas à l'être.
De Vampire Diaries, ils ne se prennent pas au sérieux, c'est décomplexé, ils sont sérieux. Alors, sur leur travail.
C'est du gâchis. Ils ne se prennent pas au sérieux, mais ce n'est pas non plus c'est pas la marade. Hein, Vampire Diaries, ils ne se prennent
pas la foire
quand tu les regardes. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des moments de second degré qui sont intéressants et je pense qu'on peut remercier Ian Somerhalder pour ça, qui apporte pas mal de second degré par moment, même si maintenant il a tendance à être beaucoup plus torturé.
Ouais, mais tu vois, Somerhalder aussi, il est très bien, il est très beau, et c'est vrai que c'était sympa son côté un peu sarcasme, machin. Ian Somerhalder, toujours faire un sarcasme et rouler des yeux.
Mais non, justement, dans cette saison, c'est ce qui je n'ai pas le droit de le dire, mais cette saison, il y a des changements de dynamique intéressants.
Je me suis arrêtée juste avant que ça devienne bien.
Il est moins sarcastique, il est moins ironique. C'est vraiment intéressant ce qu'ils ont fait en début. Il me manque les 5 derniers, c'est pour ça. C'est fantastique ce qu'ils ont fait.
Sur le visiteur du futur.
Moi Donc juste le visiteur du futur, on va revenir sur un événement aussi qui a eu lieu hier brièvement, pour expliquer, pour contextualiser. Donc hier avait lieu l'avant-première de la saison 3, avec les deux premiers épisodes, que le public a pu découvrir, une petite intro,
devant de 4000 personnes.
Devant 4000 personnes, dans la grande salle, c'est-à-dire la salle où il y avait eu la masterclass d'Alexandre Astier. Et ben voilà, ils ont été aussi bien. Et
tu sors.
Tu sors avec tes manettes.
Et donc découvrir à la télé, c'était aussi bien.
Et donc on a eu le droit aux deux premiers épisodes. Le premier avec Simon Astier en guest. Donc ce qui n'a fait que renforcer.
Je veux rien savoir sur ce qui se passe.
Le parallélisme qu'on peut établir entre ces deux auteurs.
En dehors de la chemise, vous regarderez le podcast d'hier.
Voilà. Mais globalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux épisodes ?
C'est
très, très, très bon démarrage.
Ah oui, non, c'est très rythmé, c'est très drôle. C'est tellement bien que ça devrait être à la télé.
Ouais, c'est non seulement c'est bien écrit, c'est bien structuré. Le premier épisode se boucle et réintroduit pour ceux qui ne connaissaient pas forcément la série ou n'ont pas suivi toute la série.
Donc parce ils peuvent partir.
Voilà, en fait, la saison 3 se veut comme une sorte de mini-série, peu avec un sous-titre comme le peut l'être Children of Force sur Torchwood, etc. Okay. Ça a été défini comme ça dès le départ. Elle est plus formatée, c'est-à-dire que tous les épisodes ont la même durée, ce qui est exceptionnel sur Le Visiteur du Futur.
Oui,
voilà. Pas mal il a un rythme d'écriture qui se met en place. Et en même temps, on voit déjà avec les deux premiers épisodes qu'il arrive à les différencier.
Oui, tout à fait. Oui. Chaque épisode a sa tonalité. Il y a une mission à chaque fois. Et
le
ça
premier
donne de l'intérêt.
Va être plus abordable pour ceux qui vont raccrocher les wagons ou reprendre une saison et lancer la nouvelle intrigue.
Enfin, maintenant, raccrocher les wagons sur Le Visiteur du Futur, je l'ai fait, ça dure une soirée. Hein. Donc,
c'est vrai.
Vous pouvez
vous
matez les deux premières saisons, s'il vous plaît, parce que franchement, la première est bancale, la deuxième est vraiment bien.
Et la 3 promet beaucoup de choses.
Avec une vraie valeur ajoutée au niveau de la réalisation. Et la 3, c'est encore une marche au-dessus. Voilà. Le budget, tu vois.
La première, elle n'est pas bancale, elle est hésitante sur le début.
Elle est hésitante, mais c'est normal, il construit son concept.
Il
y a une logique là-dedans. Oui, quand je dis que c'est bancal, c'est pas vraiment
aucun moyen.
Ouais, mais si, je te sens méchant, quoi.
Ah oui, grave, je suis vachement méchant avec François Descras, quoi. Tu m'étonnes.
Mais globalement, donc voilà, le deuxième épisode, plus centré sur les personnages, sur l'équipe autour du visiteur et sur le visiteur, sur un peu plus rentré dans leur personnalité, dans leur passé, dans leurs attentes par rapport à cette saison, sur où ils en sont eux. Et donc ça, avec un twist à la fin qui est
vraiment gonflé.
Pour un deuxième épisode de saison 3, tu fais « Ah ouais !»
Mais c'était l'épisode parfait à balancer devant 4000 personnes. Voilà. Parce que quand tu restes à la fin du truc,
tu fais un super teasing.
Ils étaient dingues, quoi.
Alors,
à la fin du truc, tu lances une intrigue.
Question d'une novice, quelqu'un qui n'aime pas les web-séries, quelqu'un qui n'apprécie pas le genre, est-ce que vous diriez, vous focalisez pas sur le fait que c'est une web-série, regardez-la comme si c'était une série.
Ah, mais complètement. Ça commence comme une web-série.
Ouais.
Les premiers épisodes sont très formatés, c'est plus pastille d'humour. D'accord. Avec une thématique commune, mais c'est plus pastille d'humour. Quand je dis qu'elle est bancale, c'est que justement, elle se cherche dans la première saison. Et puis elle finit par trouver son chemin gentiment.
Oui,
et
puis en plus, ils ne savaient pas d'une semaine à l'autre de tournage.
Exactement.
Ils allaient
voir ils construisaient comme ils pouvaient. C'est le succès de l'un qui a appelé l'autre.
Voilà,
et donc du coup, il était obligé de détendre son univers. Il le fait hyper bien.
Ouais.
La deuxième saison, moi, je la trouve vraiment très bien. Quoi. Il y a des petits moments de faiblesse, mais globalement,
oui,
elle
non,
se
mais
tient
elle,
bien.
Voilà, après ce qui leur plaît. Et surtout, dire, par rapport là où je la distingue de beaucoup de web-séries françaises, c'est donc, le production value, même s'il n'y en a pas au départ dessous,
non, mais...
et l'écriture.
Oui.
Parce que, honnêtement, des épisodes... Alors, je suis un peu, vous l'avez compris dans mes précédents articles, quand même, la fada des structures. C'est-à-dire que pour moi, un épisode, ça doit être carré, ça doit se répondre, ça doit être, c'est une musique, c'est mécanique. Et pour ça, il est très bon.
Absolument.
Il l'était déjà précédemment, même quand il y avait des formats différents dans la saison. Surtout que le seul la grosse entorse du format, c'était le final de la saison 2, mais qui était un peu à part, vu que tournait en décalé, etc.
Et puis plus d'action, enfin, ambitieux.
Mais sur la saison 3, donc ils se sont pris un rythme de croisière. Ils ont eu un financement par Ankama, ce qui leur a donné un peu de marge. Et on a une vraie, alors c'est du 13 minutes, mais on a un vrai rendu télé.
Et vous savez combien est le budget pour la troisième ou pas? Ils vous l'ont dit ou pas? Officiel ou non? Ok, voilà. D'accord. Non, parce que à série, on leur a demandé à chaque fois. On leur a demandé à chaque fois combien coûtait un épisode. Et ils nous ont donné les chiffres.
Pour Actamanes Score, tu as ou...
1 million d'euros. Un million un.
Un épisode.
Tu y es pas. Tu y es pas.
T'en es loin.
Non, mais... Diawa, 1,3 million.
T'es super loin.
Pour vous donner une idée, on a le low-cost TV qui est HeroCorp. Et ben, le visiteur du futur est en dessous encore largement d'HeroCorp.
Et c'est pour ça qu'enfin quand tu vois les images, c'est un résultat incroyable. Alors évidemment, ils vont
Alors voilà, après c'est comme tout. Le visiteur, ils ont toujours tourné. Genre c'est les locaux d'Ankama.
Voilà.
C'est de la démerde. La piole de François Descraques. Ouais. C'est ils sont entre potes. C'est du familial une fois de plus.
Mais c'est un peu ce côté troupe là, comme chez les Astiers. Hein.
Voilà.
C'est
sympa. Il y a beaucoup de parallèles. En dehors de la Suisse, il y a beaucoup de similitudes. Ouais, c'est pas pour rien. Je pense qu'ils ont bossé ensemble et que c'est la même culture. C'est deux fadas de séries, d'univers.
Ils aiment profondément leur série
par les mêmes choses. Voilà, ils le font.
Ils
aiment profondément. François Descraques a toujours dit que sur le viseur du futur, de toute façon, il le. Si c'était pour qu'on lui donne des sous, mais qu'il puisse plus avoir la liberté qu'il a dessus, il ne le ferait pas. Donc c'est son bébé, c'est comme pour Simon Astier, c'est HeroCorp son bébé.
Mais oui, mais ça,
ils font des projets autour qui sont peut-être un peu moins perso, mais ces deux trucs-là, chacun...
En fait, c'est en train de dire que bien qu'Ankama est financier sur la saison 3, ils n'ont absolument pas
Ils l'ont reprécisé ce matin, et non.
Et ils n'ont pas du tout l'attitude d'un diffuseur français.
Non.
D'accord.
Non, moi il me l'a dit aussi hier.
Il l'a encore dit à la conférence ce matin qu'ils sont en totale liberté.
Ankama, pour moi, dessus a un rôle de mécène.
Oui.
D'accord.
C'est un rôle de laboratoire. Ils font ça avec plein de choses. Ils ont fait ça sur d'autres formats, d'autres web-séries, des choses plus animées. Ils font évoluer des gens chez eux aussi. C'est plus ce côté mécène là-dessus.
C'est intéressant parce qu'à série, les scénaristes qui étaient présents et les réalisateurs, vraiment tu les sentais qu'ils en avaient ras-le-bol des diffuseurs, de leur interventionnisme dans leur script.
Ça a été dit dès la première conférence, c'est incroyable.
Et à chaque fois, les questions qui reviennent aux producteurs étrangers et aux scénaristes étrangers, quelle part d'intervention de la chaîne, est-ce qu'ils participent à l'écriture, qu'est-ce qu'ils disent, comment ça se passe. Et donc, évidemment, ils étaient estomaqués quand Daniel Isaacs, qui est le CEO de Kudos, qui est un studio indépendant anglais, un des plus gros à l'heure actuelle, et donc ils expliquaient qu'ils donnaient au maximum de scripts à la BBC, et sur ça, c'est feu vert, tournage, financement bouclé, payé. Et les scénaristes refuseraient, de toute manière, de travailler dans d'autres conditions, et ils sont bien protégés.
Oui, mais c'est vrai que moi, je rappelle une conférence qui avait eu lieu à Sériemania avec la responsable, la productrice de la BBC des trucs de Daytime, au niveau de l'appel à scénaristes, du recrutement des scénaristes, de comment les projets sont financés. Ça se passe pas du tout de la même manière qu'en France.
Ah oui,
donc je pense que les diffuseurs sont déjà plus en confiance, alors que nous, on est dans un système a posteriori qui fait que
C'est sûr qu'il y a un problème de méfiance. Il y a un problème de méfiance.
Déjà qu'on est frileux à la base, mais alors là, on va pas s'en sortir.
Alors, on va clore très rapidement.
Sur le visiteur.
Sur le visiteur. Très content, très satisfait. Oui, une bonne conférence, très drôle.
Voilà, une conférence après.
François Descraques plus à l'aise qu'hier.
Il est dans son élément. Voilà. Il y a forcément devant 4000 personnes, surtout quand on lui a fini par lui allumer la salle pour qu'il voit.
Et puis là, il était plus ou moins au milieu de la scène.
Il était parmi son public, avec il ses baladait acteurs, avec toute son équipe qui était derrière, il n'était pas seul, la conférence n'était pas uniquement orientée sur des choses pointues, on va dire, sur la série, ça pouvait dériver sur de l'humour, etc., sur des vannes.
Oui, ça a dérapé. Hein.
Ça a beaucoup dérapé, mais en même temps, c'est ce qui est attendu du public, c'est que c'est ce côté proche, ouais. Le côté anecdote, ouais, le côté ouais. Marrant. Il faut savoir aussi que toute cette équipe font plein de choses à côté. Il y a toute l'équipe French Nerd avec plein de web-séries, des vidéos juste virales, des pseudo-magazines, plein de choses différentes.
Des parodies.
Voilà, ils interviennent pas mal sur nos lives, sur toutes ces émissions-là. Bon, c'est un public.
On conclut. Deux mots sur la conférence Les super-héros français.
Ouais. Alors, deux mots.
Ça y est.
Et c'est un rendez-vous demain.
Merci à vous. Quelle participation. Je tiens à préciser que voilà, et c'est parce que Dom est un peu jaloux parce qu'il voulait venir aussi et qu'il n'a pas pu.
Mais ouais, j'ai pas pu pour bonne raison, vous le saurez très bientôt.
Il est quand même content. Donc, juste deux mots. C'était une conférence assez intéressante, très pointue. Extrêmement pointu parce que tu avais plusieurs intervenants, donc je suis désolée, je n'ai pas retenu tous les noms.
Elle va s'en souvenir pour son article.
Voilà, je n'ai pas retenu tous les noms et je m'aperçois que je ne les ai pas notés. Donc je vais les
retenir. Super, donc
voilà. Oh, l'amateurisme,
Mais donc, il y avait trois personnes qui venaient vraiment exclusivement du milieu du comics et de la BD. Un auteur, deux auteurs et un dessinateur. Qui est aussi devenu maintenant qui édite, qui a créé sa société d'édition donc, et qui édite des comics et réédite français. Des anciens super-héros. Voilà, des anciens super-héros français. Donc l'intérêt de la. Et Simon Assier, qui était aussi bien sûr présent à la conférence, le tout animé par Comics Box.
Pourquoi ?
Oui, c'est bizarre.
Et voilà, donc juste en quelques mots, le public était nombreux, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu entrer, beaucoup d'hérocorpiens. Qui était venu manifester avec des t-shirts Hérocorp dans la salle.
C'est une série dont tout le monde parle.
Très intéressant parce qu'en gros, ce que j'en retiens, c'est que les super-héros existaient en France dans des comics depuis très longtemps,
et qu'on a
début
arrêté.
Du siècle, début 20e, mais que il y a eu notamment un qui a un super nom en plus. Ce n'est pas Super Dupont, c'est Nick Talop.
Pardon ?
Nick Talop, c'est la faculté de voir dans le noir.
Voilà.
Figurez-vous.
Et parce qu'il voyait dans le noir.
La prochaine fois, vous n'avez qu'à faire du latin.
Donc Nick Talop, qui était un super-héros qui date.
Écoute, je me suis
Mais je vais réussir à finir ce podcast sans en tuer une.
Je vais aller regarder sur le dictionnaire.
C'est pas de ça qu'on t'avait traité. Donc, je ne dirais pas, c'est un podcast familial.
Mais d'ailleurs, sur les Nick Talop, qu'est-ce que tu.
Donc, je voulais dire ce premier super-héros français qui était donc Nick Talop. Et à travers cet exemple, ils ont réussi à expliquer qu'en fait, pour les super-héros français, on s'aperçoit qu'ils ont disparu à peu près à la Seconde Guerre mondiale. Parce que, en l'occurrence, Nick Talop est devenu collabo et qu'il y a eu un rejet après Nick et que Talop, ça a été plutôt. On a voulu oublier ça, donc on a mis tous ces.
Quel Nick Talop
Je parle d'un sujet hyper pointu, hyper sérieux. Et puis voilà, ça part en vrille.
Je suis dépité.
On a pu voir quelques planches de du futur comics Hérocorp, avec notamment une couverture temporaire.
Mais alors ça, on est où cette affaire ?
Ça sera pour octobre-novembre.
D'accord, parce que déjà l'année dernière, on avait planches.
Octobre-novembre. Non, ça sera pour octobre-novembre.
Il n'a pas précisé l'année.
si 2012, parce qu'il a dit c'est un bon cadeau pour Noël.
En fait, c'est 2017, il ne le dit pas depuis le départ. Tous les ans, il vient à la Comic Con, octobre-novembre.
Émilie qui essaie désespérément de défendre Simon.
Non, c'est de finir ma phrase.
Ouais, mais on sait que tu essaies de défendre.
Même pas. Là, je suis juste sur le dernier point, qui était de dire que le seul petit point sur la conférence qui dénotait un peu, c'est vrai que du coup, il y avait deux publics complètement différents dans la salle. Il y avait aussi deux types de spécialistes différents, c'est-à-dire que d'un côté, la partie dessinateur-auteur BD qui n'a pas le même mode de narration que qu'à la base un scénariste TV. Donc on a vu aussi, Simon a parlé de la difficulté pour lui de basculer vers la BD. Mais du coup, ça, voilà, il y avait deux conférences en une.
Ça a scindé,
Oui, qui se mariaient, qui essayaient de faire se marier, mais c'était un peu compliqué quand même. Okay. Voilà, j'ai réussi à dire ma phrase. Ouh.
C'était bien.
Merci à toutes d'être venues à ce podcast.
Merci Dominique.
On pourrait dire au revoir Charlie.
Punaise.
Il reste encore demain.
Merci Julia de me flinguer le moral.
Mais demain, tu ne seras pas le seul.
Et demain, Dominique aura
au moins deux autres.
Et demain, Dominique vous fera une spéciale One Tree Hill. Sur ce, bonne soirée.
Bonjour chez vous.
C'est la conclusion de notre podcast,
c'est super agressif.